Chapitre XVI. Ouverture des États généraux, le 5 mai 1789. Je n'oublierai jamais le moment où l'on vit passer les 1200 députés de la France, se rendant en procession à l'église pour entendre la messe, la veille de l'ouverture des États généraux. C'était un spectacle bien imposant et bien nouveau pour des Français. Tout ce qu'il y avait d'habitants dans la ville de Versailles ou de curieux arrivés de Paris se rassemblait pour le contempler. Cette nouvelle sorte d'autorité dans l'État, dont on ne connaissait encore ni la nature ni la force, étonnait la plupart de ceux qui n'avaient pas réfléchi sur les droits des nations. Le haut clergé avait perdu une partie de sa considération parce que beaucoup de prélats ne s'étaient pas montrés assez réguliers dans leur conduite, et qu'un plus grand nombre encore n'était occupé que des affaires politiques. Le peuple est sévère pour les prêtres comme pour les femmes. Il veut dans les uns et dans les autres du dévouement à leur devoir. La gloire militaire, qui constitue la considération de la noblesse, comme la piété, celle du clergé, ne pouvait plus apparaître que dans le passé. Une longue paix n'avait donné à aucun des nobles qui en auraient été les plus avides l'occasion de recommencer leurs aïeux, et c'était d'illustres obscurs que tous les grands seigneurs de France. La noblesse du second ordre n'avait pas eu plus d'occasion de se distinguer, puisque la nature du gouvernement ne permettait aux gentilshommes que la carrière des armes. Les anoblis, qu'on voyait marcher en grand nombre dans les rangs des nobles, portaient d'assez mauvaise grâce le panache et l'épée. Et l'on se demandait pourquoi ils se plaçaient dans le premier ordre de l'État seulement parce qu'ils avaient obtenu de ne pas payer leur part des impôts publics. Car en effet, c'était à cet injuste privilège que se bornaient leurs droits politiques. La noblesse, se trouvant déchue de sa splendeur par l'esprit de courtisan, par l'alliage des anoblis et par une longue paix, le clergé ne possédant plus l'ascendant des lumières qu'il avait eues dans les temps barbares, l'importance des députés du tiers-état en était augmentée. Leurs habits et leurs manteaux noirs, leurs regards assurés, leur nombre imposant, attiraient l'attention sur eux. Des hommes de lettres, des négociants, un grand nombre d'avocats composaient ce troisième ordre. Quelques nobles s'étaient fait nommer députés du tiers. Et parmi ces nobles, on remarquait surtout le comte de Mirabeau. L'opinion qu'on avait de son esprit était singulièrement augmentée par la peur que faisait son immoralité. Et cependant, c'est cette immoralité même qui a diminué l'influence que ses étonnantes facultés devaient lui valoir. Il était difficile de ne pas le regarder longtemps quand on l'avait une fois aperçu. Son immense chevelure le distinguait entre tous. On eût dit que sa force en dépendait comme celle de Samson. Son visage empruntait de l'expression de sa laideur même, et toute sa personne donnait l'idée d'une puissance irrégulière, mais enfin d'une puissance telle qu'on se la représenterait dans un tribun du peuple. Aucun nom, excepté le sien, n'était encore célèbre dans les 600 députés du tiers. Mais il y avait beaucoup d'hommes honorables et beaucoup d'hommes à craindre. L'esprit de faction commençait à planer sur la France, et l'on ne pouvait l'abattre que par la sagesse ou par le pouvoir. Or, si l'opinion avait déjà miné le pouvoir, que pouvait-on faire sans sagesse? J'étais placé à une fenêtre près de Madame de Montmorin, femme du ministre des Affaires étrangères, et je me livrais, je l'avoue, à la plus vive espérance en voyant pour la première fois en France des représentants de la nation. Madame de Montmorin, dont l'esprit n'était en rien distingué, me dit avec un ton décidé qui cependant me fit effet, « Vous avez tort de vous réjouir. Il arrivera de ceci de grands désastres à la France et à nous. » Cette malheureuse femme a péri sur l'échafaud avec un de ses fils. L'autre s'est noyé. Son mari a été massacré le 2 septembre. Sa fille aînée a péri dans l'hôpital d'une prison. Sa fille cadette, Madame de Beaumont, personne spirituelle et généreuse, a succombé sous le poids de ses regrets avant 30 ans. la famille de Niobé n'a pas été plus cruellement frappée que celle de cette pauvre mère. On eût dit qu'elle le pressentait. L'ouverture des états généraux eut lieu le lendemain. On avait construit à la hâte une grande salle dans l'avenue de Versailles pour y recevoir les députés. Beaucoup de spectateurs furent admis à cette cérémonie. Une estrade était élevée pour y placer le trône du roi, le fauteuil de la reine et des chaises pour le reste de la famille royale. Le chancelier, M. de Barentin, s'assit sur l'avant-scène de cette espèce de théâtre. Les trois ordres étaient, pour ainsi dire, dans le parterre. Le clergé et la noblesse à droite et à gauche, les députés du tiers-état en face. Ils avaient déclaré d'avance qu'ils ne se mettraient pas à genoux au moment de l'arrivée du roi, suivant l'ancien usage, encore pratiqué la dernière fois que les états généraux s'étaient rassemblés. Si les députés du tiers-état s'étaient mis à genoux en 1789, tout le monde, y compris les aristocrates les plus purs, aurait trouvé cette action ridicule, c'est-à-dire en désaccord avec les idées du temps. Lorsque Mirabeau parut, un murmure se fit entendre dans l'assemblée. Il en comprit le sens, mais, traversant la salle fièrement jusqu'à sa place, il eut l'air de se préparer à faire naître assez de troubles dans l'État pour confondre les rangs de l'estime aussi bien que tous les autres. M. Necker fut couvert d'applaudissements dès qu'il entra. Sa popularité était alors entière, et le roi pouvait s'en servir utilement, en restant fidèle au système dont il avait adopté les principes fondamentaux. Quand le roi vint se placer sur le trône, au milieu de cette assemblée, j'éprouvai pour la première fois un sentiment de crainte. D'abord, je remarquai que la reine était très émue. Elle arriva plus tard que l'heure assignée, et les couleurs de son teint étaient altérées. Le roi prononça son discours avec sa simplicité accoutumée. Mais les physionomies des députés exprimaient plus d'énergie que celles du monarque. Et ce contraste devait inquiéter, dans des circonstances où, rien n'étant encore établi, il fallait de la force des deux côtés. Les discours du roi, du chancelier et de M. Necker avaient tous les trois pour but le rétablissement des finances. Celui de M. Necker présentait toutes les améliorations dont l'administration était susceptible, mais il touchait à peine aux questions constitutionnelles et, se bornant à prévenir l'Assemblée contre la précipitation dont elle n'était que trop susceptible, il lui dit ce mot qui est devenu proverbe « Ne soyez pas envieux du temps ». En sortant de la séance, le parti populaire, c'est-à-dire la majorité du tiers, la minorité de la noblesse et plusieurs membres du clergé, se plaignirent de ce que M. Necker avait traité les États généraux comme une administration provinciale, en ne leur parlant que des mesures à prendre pour garantir la dette de l'État et pour perfectionner le système des impôts. Le principal objet des États généraux, sans doute, était de faire une constitution. Mais pouvait-il exiger que le ministre du roi entamât le premier des questions qui ne devaient être mises en avant que par les représentants de la nation? D'un autre côté, les aristocrates, ayant vu dans le discours de M. Necker qu'en 8 mois il avait assez rétabli les finances pour être en état de se passer de nouveaux impôts, commencèrent à blâmer le ministre d'avoir convoqué les états généraux, puisque le besoin d'argent ne les rendait pas indispensables. Ils oubliaient, apparemment, que la promesse de ces états généraux était donnée avant le rappel de M. Necker. Dans cette circonstance, comme dans presque toutes, il marchait entre les deux extrêmes, car il ne voulait point dire aux représentants du peuple « Ne vous occupez que de constitution ». Et il ne voulait pas non plus retomber dans l'arbitraire en se contentant des ressources momentanées qui ne mettaient point en sûreté les créanciers de l'État et ne répondaient pas au peuple de l'emploi de ses sacrifices. Chapitre 17. De la résistance des ordres privilégiés aux demandes du tiers-État en 1789. Monsieur de la Luzerne, évêque de Langres, un des meilleurs esprits de France, écrivit, à l'ouverture des États généraux, une brochure pour proposer que les trois ordres se formassent en deux chambres, le haut clergé se réunissant à la noblesse et le bas clergé aux communes. Monsieur le marquis de Montesquiou, depuis général, en fit la motion, mais en vain, dans la chambre de la noblesse. En un mot, tous les hommes éclairés sentaient la nécessité de détruire cette délibération en trois ordres, avec le veto de l'un sur l'autre, car indépendamment de son injustice radicale, elle rendait impossible de terminer aucune affaire. Il y a dans l'ordre social, comme dans l'ordre naturel, de certains principes dont on ne saurait s'écarter sans amener la confusion. Les trois pouvoirs sont dans l'essence des choses. La monarchie, l'aristocratie et la démocratie existent dans tous les gouvernements, comme l'action, la conservation et le renouvellement dans la marche de la nature. Si vous introduisez dans l'organisation politique un quatrième pouvoir, le clergé, qui est tout ou rien, suivant la façon dont on le considère, vous ne pouvez plus établir aucun raisonnement fixe sur les lois nécessaires au bien de l'État, puisqu'on vous met pour entrave des autorités mystérieuses, là où vous ne devez admettre que des intérêts publics. Deux grands dangers, la banqueroute et la famine, menaçaient la France au moment de la convocation des États généraux, et tous les deux exigeaient des ressources promptes. Comment pouvait-on prendre aucune résolution rapide avec le veto de chaque ordre ? Les deux premiers ne voulaient pas consentir sans condition à l'égalité des impôts, et cependant la nation demandait que ce moyen fût employé avant tout autre pour rétablir les finances. Les privilégiés avaient dit qu'ils accéderaient à cette égalité, mais ils ne l'avaient point encore formellement décrétée. Ils étaient toujours les maîtres de décider ce qui les concernait d'après l'ancienne manière de délibérer. Ainsi, la masse de la nation n'avait point d'influence décisive, quoique la plus grande partie des sacrifices portât sur elle. Les députés du tiers réclamèrent donc le vote par tête, et la noblesse et le clergé le vote par ordre. La dispute à cet égard commença dès la vérification des pouvoirs. Et dès ce moment aussi, M. Necker proposa un plan de conciliation qui, bien que très favorable aux deux premiers ordres, pouvait cependant alors être accepté parce que l'on négociait encore. À toutes les entraves qu'apportait la délibération en trois ordres, il faut ajouter ce qu'on appelait les mandats impératifs, c'est-à-dire des mandats rédigés par les électeurs qui imposaient aux députés l'obligation de se conformer à la volonté de leurs commettants sur les principaux objets dont il devait être question dans l'Assemblée. Cette forme surannée ne pouvait convenir qu'au temps où le gouvernement représentatif était dans son enfance. L'opinion publique n'avait guère d'ascendant lorsque les communications d'une province à l'autre étaient peu faciles, et surtout lorsque les journaux ne répandaient encore ni les nouvelles ni les idées. Mais vouloir contraindre de nos jours les députés à ne s'écarter en rien des cahiers rédigés dans leur bailliage, c'était faire des États généraux une réunion d'hommes qui auraient eu seulement le droit de déposer des pétitions sur la table. En vain, la discussion les eût-elle éclairés, puisqu'il ne leur était permis de rien changer aux injonctions qu'ils avaient reçues d'avance. C'est pourtant sur ces cahiers impératifs que les nobles se fondaient principalement pour refuser la délibération par tête. Les gentilshommes du Dauphiné, au contraire, avaient apporté le mandat formel de ne jamais délibérer par ordre. La minorité de la noblesse, c'est-à-dire plus de 60 membres de la naissance la plus illustre, mais qui participaient par leur lumière à l'esprit du siècle, voulaient aussi qu'on délibérât par tête sur la constitution future de la France. Mais la majorité de leur ordre, d'accord avec une partie du clergé, bien que celui-ci se montrât plus modéré, mettait une obstination inouïe à n'adopter aucun mode de conciliation. Ils assuraient qu'ils étaient prêts à renoncer à leurs exemptions d'impôts. Et néanmoins, au lieu de déclarer formellement cette résolution à l'ouverture de leur séance, ils voulaient faire de ce que la nation regardait comme son droit un objet de négociation. Le temps se perdit en arguties, en refus polis, en difficultés nouvelles. Quand le tiers-État élevait le ton et montrait sa force, qui consistait dans le vœu de la France, la noblesse de la cour fléchissait, habituée qu'elle était à céder au pouvoir. Mais dès que la crise paraissait se calmer, elle reprenait bientôt toute son arrogance et se mettait à mépriser le tiers-État, comme dans le temps où les vilains sollicitaient leur affranchissement des seigneurs. La noblesse de province était plus intraitable encore que les grands seigneurs. Ceux-ci étaient toujours assurés de leur existence, les souvenirs de l'histoire la leur garantissaient. Mais tous ces gentilshommes, dont les titres n'étaient connus que d'eux-mêmes, se voyaient en danger de perdre des distinctions qui n'imposaient plus de respect à personne. Il fallait les entendre parler de leurs rangs comme si ces rangs eussent existé avant la création du monde, quoique la date en fût très récente. Ils considéraient leurs privilèges, qui n'étaient d'aucune utilité que pour eux-mêmes, comme le droit de propriété sur lequel se fonde la sécurité de tous. Les privilèges ne sont sacrés que quand ils servent au bien de l'État. Il faut donc raisonner pour les maintenir. Ils ne peuvent être vraiment solides que quand l'utilité publique les consacre. Mais la majorité de la noblesse ne sortait pas de ces trois mots. C'était ainsi jadis. Cependant, leur répondait-on, ce sont des circonstances qui ont amené ce qui était, et ces circonstances sont entièrement changées. N'importe, rien n'arrivait à leur conviction. Ils avaient une certaine fatuité aristocratique, dont on ne peut avoir l'idée nulle part ailleurs qu'en France, un mélange de frivolité dans les manières et de pédanterie dans les opinions, et le tout réuni au plus complet dédain pour les lumières et pour l'esprit, à moins qu'il ne se fît bête, c'est-à-dire qu'il ne s'employât à faire rétrograder la raison. En Angleterre, le fils aîné d'un lord est d'ordinaire membre de la Chambre des communes, jusqu'à ce qu'il puisse, à la mort de son père, entrer dans la Chambre haute. Les fils cadets restent dans le corps de la nation dont ils font partie. Un lord disait spirituellement « Je ne puis pas devenir aristocrate, car j'ai chez moi constamment des représentants du Parti populaire. Ce sont mes fils cadets. » La réunion graduée des divers états de l'ordre social est une des admirables beautés de la Constitution anglaise. Mais ce que l'usage avait introduit en France, c'était deux choses pour ainsi dire contradictoires. Un respect tel pour l'antiquité de la noblesse qu'il n'était pas même permis d'entrer dans les carrosses du roi sans des preuves vérifiées par le généalogiste de la cour et qui remontait au-delà de 1400, c'est-à-dire avant l'époque où les rois ont introduit les anoblissements. Et d'un autre côté, la plus grande importance attachée à la faculté donnée au roi d'anoblir. Aucune puissance humaine ne peut faire un noble véritable. Ce serait disposer du passé, ce qui paraît impossible à la divinité même. Mais rien n'était plus facile en France que de devenir un privilégié. Et cependant, c'était entrer dans une caste à part et acquérir, pour ainsi dire, le droit de nuire au reste de la nation, en augmentant le nombre de ceux qui ne supportaient pas les charges de l'État et qui se croyaient des droits particuliers à ses faveurs. Si la noblesse française était restée purement militaire, on aurait pu longtemps encore, par le sentiment de l'admiration et de la reconnaissance, se soumettre aux avantages dont elle jouissait. Mais depuis un siècle, un tabouret à la cour était demandé avec autant d'instance qu'un régiment à l'armée. Les nobles de France n'étaient ni des magistrats par la pairie, comme en Angleterre, ni des seigneurs suzerains, comme en Allemagne. Qu'étaient-ils donc ? Ils se rapprochaient, malheureusement, de ceux d'Espagne et d'Italie, et ils n'échappaient à cette triste comparaison, que par leur élégance en société et l'instruction de quelques-uns d'entre eux, mais ceux-là même, pour la plupart, abjuraient la doctrine de leur ordre, et l'ignorance seule restait à la garde des préjugés. Quels orateurs pouvaient soutenir ce parti, abandonné par ses membres les plus distingués ? L'abbé Maury, qui était loin d'occuper le premier rang dans le clergé de France, défendait ses abbayes sous le nom du bien public. Et un capitaine de cavalerie, anobli depuis 25 ans, M. de Casalès, fut le champion des privilèges de la noblesse dans l'Assemblée constituante. On a vu depuis ce même homme se rattacher l'un des premiers à la dynastie de Bonaparte. Et le cardinal Maury, ce me semble, s'y est assez prêté. L'on peut donc croire, dans cette occasion comme dans toute autre, que de nos jours, les avocats des préjugés sont souvent très disposés à transiger pour des intérêts personnels. La majorité de la noblesse, se sentant délaissée en 1789 par les talents et les lumières, proclamait indiscrètement la nécessité d'employer la force contre le parti populaire. Nous verrons si cette force existait alors. Mais on peut dire d'avance que, si elle n'existait pas, c'était une grande imprudence que d'en menacer. Chapitre 18. De la conduite du tiers-État pendant les deux premiers mois de la session des États généraux. Quelques individus de la noblesse et du clergé, les premiers de leur pays, inclinaient fortement, comme nous l'avons dit, pour le parti populaire. Beaucoup d'hommes éclairés se trouvaient parmi les députés du tiers-État. Il ne faut pas juger de la France d'alors par celle d'aujourd'hui. 25 ans de périls continuels en tout genre ont malheureusement accoutumé les Français à n'employer leurs facultés qu'à la protection d'eux-mêmes. Mais on comptait, en 1789, un grand nombre d'esprits supérieurs et philosophiques. Pourquoi donc, dira-t-on, ne pas s'en tenir au régime sous lequel il s'était formé ainsi? Ce n'était pas le gouvernement, mais les Lumières du siècle qui avaient développé tous ces talents, et ceux qui les sentaient éprouvaient le besoin de les exercer. Toutefois, l'ignorance du peuple à Paris, et plus encore dans les provinces, cette ignorance, résultat d'une longue oppression et du peu de soin que l'on prenait de l'éducation des dernières classes, menaçait la France de tous les maux dont elle a été depuis accablée. Il y avait peut-être autant d'hommes marquants chez nous que parmi les Anglais, mais la masse de bon sens, dont une nation libre est propriétaire, n'existait point en France. La religion, fondée sur l'examen, l'instruction publique, les élections et la liberté de la presse sont des sources de perfectionnement qui avaient agi depuis plus de 100 ans en Angleterre. Le tiers-État voulait que les Français fussent enrichis d'une partie de ses biens. L'esprit public appuyait son désir avec énergie. Mais le tiers-État, étant le plus fort, ne pouvait avoir qu'un mérite, celui de la modération, et malheureusement, il ne voulut pas se le donner. Deux partis existaient dans les députés de cet ordre. L'un avait pour chefs principaux Mounier et Malouet, et l'autre Mirabeau et Seyès. Le premier voulait une constitution en deux chambres, et conservait l'espoir d'obtenir ce changement de la noblesse et du roi par les voies de la conciliation. L'autre était plutôt dirigé par les passions que par les opinions, bien que l'avantage des talents pût lui être attribué. Mounier était le chef de l'insurrection calme et réfléchie du Dauphiné. C'était un homme passionnément raisonnable, plus éclairé qu'éloquent, mais constant et ferme dans sa route tant qu'il lui fut possible d'en choisir une. Malouet, dans quelque situation qu'il se soit trouvé, a toujours été guidé par sa conscience. Je n'ai pas connu d'âme plus pure, et si quelque chose lui a manqué pour agir efficacement, c'est qu'il avait traversé les affaires sans se mêler avec les hommes, se fiant toujours à la démonstration de la vérité, sans réfléchir assez au moyen de l'introduire dans la conviction des autres. Mirabeau, qui savait tout et qui prévoyait tout, ne voulait se servir de son éloquence foudroyante que pour se faire place au premier rang, dont son immoralité l'avait banni. Seyès était l'oracle mystérieux des événements qui se préparaient. Il a, on ne saurait le nier, un esprit de la première force et de la plus grande étendue. Mais cet esprit a pour guide un caractère très sujet à l'humeur. Et comme on pouvait à peine arracher de lui quelques paroles, elles comptaient, par leur rareté même, comme des ordres ou des prophéties. Pendant que les privilégiés discutaient leurs pouvoirs, leurs intérêts, leurs étiquettes, enfin tout ce qui ne concernait qu'eux, le tiers-état les invitait à s'occuper en commun de la disette et des finances. Sur quel terrain avantageux les députés du peuple ne se plaçaient-ils pas quand ils sollicitaient pour de semblables motifs la réunion de tous les députés? Enfin, le tiers-état se lassa de ses vains efforts, et les factieux se réjouirent de ce que leur inutilité semblait démontrer la nécessité de recourir à des moyens plus énergiques. Malouet demanda que la Chambre du tiers se déclarât l'assemblée des représentants de la majorité de la nation. Il n'y avait rien à dire à ce titre incontestable. Seyès proposa de se constituer purement et simplement l'Assemblée nationale de France et d'inviter les membres des deux ordres à se réunir à cette assemblée. Ce décret passa, et ce décret était la Révolution elle-même. Combien n'importait-il donc pas de le prévenir? Mais tel fut le succès de cette démarche qu'à l'instant les députés de la noblesse du Dauphiné et quelques prélats accédèrent à l'invitation de l'Assemblée. Son ascendant croissait à toute heure. Les Français sentent où est la force mieux qu'aucun peuple du monde. Et, moitié par calcul, moitié par enthousiasme, ils se précipitent vers la puissance et l'augmentent de plus en plus en s'y ralliant. Le roi, comme on le verra dans le chapitre suivant, se détermina beaucoup trop tard à intervenir dans la crise. Mais, par une maladresse ordinaire au parti des privilégiés, toujours faible sans cesser d'être confiant, le grand maître des cérémonies imagina de faire fermer la salle où se rassemblait le tiers-état, pour y placer l'estrade et le tapis nécessaires à la réception du roi. Le tiers-état crut, ou fit semblant de croire, qu'on lui défendait de se rassembler. Les troupes qui s'avançaient de toutes parts autour de Versailles mettaient les députés dans la situation du monde la plus avantageuse. Le danger était assez apparent pour leur donner l'air du courage. Et ce danger, cependant, n'était pas assez réel pour que les hommes timides y cédassent. Tout ce qui composait l'Assemblée nationale se réunit donc dans la salle du jeu de paume pour prêter serment de maintenir ses droits. Ce serment n'était pas sans quelque dignité. Et si le parti des privilégiés avait été plus fort dans le moment où on l'attaquait, et que le parti national se fût montré plus sage après le triomphe, l'histoire aurait consacré ce jour comme l'un des plus mémorables dans les annales de la liberté. Chapitre 19. Des moyens qu'avait le roi en 1789 pour s'opposer à la Révolution. La véritable opinion publique, celle qui plane au-dessus des factions, est la même depuis 27 ans en France. Et toute autre direction, étant factice, ne saurait avoir qu'une influence momentanée. L'on ne pensait point dans ce temps à renverser le trône, mais on ne voulait pas que la loi fût faite par ceux qui devaient l'exécuter, car ce n'est pas dans les mains du roi, mais dans celles de ses ministres, que l'autorité des anciens gouvernements arbitraires est remise. Les Français ne se soumettaient pas volontiers alors à la singulière humilité qu'on prétend exiger d'eux maintenant, celle de se croire indigne d'influer, comme les Anglais, sur leur propre sort. Que pouvait-on objecter à ces vœux presque universels de la France, et jusqu'à quel point un roi consciencieux devait-il s'y refuser? pourquoi se charger à lui seul de la responsabilité de l'État ? Et pourquoi les Lumières, qui lui seraient venues d'une assemblée de députés, composée comme le Parlement anglais, n'auraient-elles pas valu pour lui celles qu'il tirait de son conseil ou de sa cour ? Pourquoi mettre enfin à la place des devoirs mutuels entre le souverain et son peuple la théorie renouvelée des Juifs sur le droit divin ? Mais, sans la discuter ici, on ne saurait nier, au moins, qu'il ne faille de la force pour maintenir cette théorie, et que le droit divin n'ait besoin d'une armée terrestre pour se manifester aux incrédules. Or, quels étaient alors les moyens dont l'autorité royale pouvait se servir ? Deux partis raisonnables seulement restaient à prendre : triompher de l'opinion ou traiter avec elle. « La force ! La force !» s'écrièrent ces hommes qui croient s'en donner seulement en prononçant ce mot. Mais en quoi consiste la force d'un souverain, si ce n'est dans l'obéissance de ses troupes ? Or, l'armée, dès 1789, partageait en grande partie les opinions populaires, contre lesquelles on voulait l'employer. Elle n'avait presque pas fait la guerre depuis 25 ans, et c'était une armée de citoyens, imbus des sentiments de la nation, et qui se faisait honneur de s'y associer. Si le roi s'était mis à sa tête, dira-t-on, il en aurait disposé. Le roi n'avait pas reçu une éducation militaire, et tous les ministres du monde, y compris le cardinal de Richelieu, ne sauraient suppléer à cet égard à l'action personnelle d'un monarque. On peut écrire pour lui, mais non commander une armée à sa place, surtout quand il s'agit de l'employer dans l'intérieur. La royauté ne peut être conduite comme la représentation de certains spectacles, où l'un des acteurs fait les gestes pendant que l'autre prononce les paroles. Mais quand la plus énergique volonté des temps modernes, celle de Bonaparte, se serait trouvée sur le trône, elle se serait brisée contre l'opinion publique au moment de l'ouverture des États généraux. La politique était alors un champ nouveau pour l'imagination des Français. Chacun se flattait d'y jouer un rôle. Chacun voyait un but pour soi dans les chances multipliées qui s'annonçaient de toutes parts. 100 ans d'événements et d'écrits divers avaient préparé les esprits au bien sans nombre que l'on se croyait prêt à saisir. Lorsque Napoléon a établi le despotisme en France, les circonstances étaient favorables à ce dessein. On était lassé de troubles. On avait peur des maux horribles qu'on avait soufferts et que le retour des mêmes factions pouvait ramener. D'ailleurs, l'enthousiasme public était tourné vers la gloire militaire. La guerre de la Révolution avait exalté l'orgueil national. L'opinion, au contraire, sous Louis XVI, ne s'attachait qu'aux intérêts purement philosophiques. Elle avait été formée par les livres, qui proposaient un grand nombre d'améliorations pour l'ordre civil, administratif et judiciaire. On vivait depuis longtemps dans une profonde paix. La guerre même était hors de mode depuis Louis XVI. Tout le mouvement des esprits consistait dans le désir d'exercer des droits politiques. Et toute l'habileté d'un homme d'État se fondait sur l'art de ménager cette opinion. Lorsqu'on peut gouverner un pays par la force militaire, la tâche des ministres est simple et de grands talents ne sont pas nécessaires pour se faire obéir. Mais si par malheur on a recours à cette force et qu'elle manque, alors l'autre ressource, celle de captiver l'opinion, n'existe plus, car on l'a perdue pour jamais dès qu'on a vainement tenté de la contraindre. Examinons d'après ces principes les plans proposés par M. Necker et ceux qu'on fit adopter au roi en sacrifiant ce ministre.